Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 88.4 branché Syllab. Il est 17h30, c'est l'heure de Inattendu, votre émission d'actu locale préparée par vos journalistes préférés. Aujourd'hui, on fait notre grand retour avec Héloïse, Soraya et moi-même depuis les merveilleuses annonces de notre Manu National. Et confiné pour confiné, on vous prépare cette émission depuis nos salons. Pour cette première un peu spéciale, j'ai le plaisir de co-animer cet Inattendu avec Soraya. Comment ça va de ton côté de Rennes ? Décovidé à déclarer ?
Bonjour à toutes et à tous et salut Paul. Et bien écoute, moi ça va super, pas de symptômes pour le moment, donc tout roule, même si je dois l'avouer, le studio me manque un peu, voire beaucoup. Et toi, comment ça va confiné Paul ?
Eh bien très bien, ravi de lancer cette nouvelle émission au contenu inédit. D'ailleurs, quel est le programme de cette soirée canapé, hein ? Je parle bien sûr du canapé, l'objet où on s'assoit et non des petits fours, hein. Je préfère préciser histoire que tu ne sois pas trop confuse.
Oh, cette blague qui revient, mais t'as droit vu qu'on se retrouve pour cette nouvelle un peu particulière. Eh bien écoute, Héloïse, elle s'est rendue à La Criée au Centre d'Art Contemporain de Rennes pour l'exposition Mime de Matisse et Paul Collin.
Et enfin Soraya, toi t'es allée du côté des étudiants de Rennes 2 en distanciel. T'as interviewé à distance bien sûr Morgane, étudiante en troisième année de licence d'histoire à Rennes 2.
Et enfin, toi, Paul, tu vas nous parler de la loi dite de sécurité globale et son article 24 qui fait polémique. Un coup de gueule en bonne et due forme.
On s'installe bien confortablement, on remplit son attestation de bonne humeur et c'est parti pour une heure d'inattendu.
Comme je le disais à l'instant, Paul, tu nous parles aujourd'hui d'une proposition de loi très critiquée, celle dite de sécurité globale.
Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un sujet particulièrement gay. Je m'en excuse d'ailleurs par avance pour nos auditrices et auditeurs qui espéraient du positif, qui espéraient un journaliste de bonnes nouvelles en ces temps sombres. Mais l'heure est grave et le sujet particulièrement préoccupant. Depuis quelques jours déjà, une proposition de loi est examinée par la Commission nationale des lois de l'Assemblée nationale. Pardon. Ce texte est intitulé « Sécurité globale ». Déjà avec un nom pareil, cela part plutôt mal. On sent venir le coup fourré. Eh bien, c'est le cas. Le coup fourré est là, en particulier l'article 24 de cette proposition. Rédigé par le député La République En Marche Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et commissaire de police à la retraite, comme de par hasard, et l'avocat Alice Touron, cet article prévoit de punir d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la diffusion d'images permettant d'identifier tout policier ou gendarme dans le cadre d'une opération, lorsque cette diffusion vise à, je cite, « porter atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Là, normalement, vous vous dites « qu'est-ce que c'est de ce bordel ?» Eh bien, vous avez raison. Cette proposition de loi est une demande de longue date des syndicats de police et de Éric Ciotti, député de La République En Marche, qui l'avait d'ailleurs proposée à l'Assemblée en septembre, en mai dernier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter notre cher ministre du viol de l'Intérieur, pardon, Gérald Darmanin, qui répondait à l'intervention du député France Insoumise, Ugo Bernalicci, lors de discussion générale sur la proposition de loi sécurité globale devant la commission des lois. C'était le 2 novembre dernier. On écoute ça.
Si vous voyez comment interviennent les policiers, vous le savez très bien, ou les gendarmes, qui désormais, lorsqu'au péril de leur vie, pour un salaire pas très élevé, dans des conditions où beaucoup de leurs camarades meurent dans des opérations que l'on pourrait qualifier parfois d'absolument désolantes, des refus d'obtempérer à 3h du matin, des endroits où, alors qu'on fait une intervention de police secours, on ne revient pas embrasser ses enfants. Quand on intervient et qu'à 3 cm de son visage, on a une dizaine d'individus qui, au lieu de vous aider, ce qui était le cas il y a encore 15 ou 20 ou 30 ans peut-être, à interpeller une personne qui manifestement agresse, parfois son voisin, parfois sa voisine, ou commet des actes particulièrement délictueux, et qu'au lieu d'aider cette personne, ou au mieux de ne rien faire, on prend son téléphone et on se met à une dizaine, à 5 cm du visage des policiers, tout en commentant la scène, parfois en les insultant. On fait des gros plans de pression, d'insultes, et qu'on met ça en pâture sur les réseaux sociaux, et que ça se termine par des agressions. Des agressions parfois des enfants de ces policiers dans les collèges où ils les mettent. des agressions physiques, des lettres de menaces, d'insultes, des menaces de mort, des endroits où les policiers et les gendarmes doivent déménager. Ben, je pense qu'on ne peut pas tenir les propos que vous avez tenus, qui sont insultants pour la police nationale et pour la gendarmerie. Je vous le dis, M. Bernalicis, je crois que la démagogie anti-flic a une limite, qui est celle de la décence. Deuxièmement, il y a l'utilisation des images contre les forces de l'ordre. Et je remercie les parlementaires de mettre en œuvre la promesse que j'ai faite aux forces de sécurité, de ne pas être jetées en pâture sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous le drame de Magnanville. On ne sait pas si ce sont les images des réseaux sociaux qui ont fait naître ou pas cet attentat, mais enfin, un policier assassiné, une policière qui travaille dans les services techniques de la police, assassinée parce que policier, en civil, chez eux, en dehors de leur lieu de travail, c'est vraiment jeté devant leur enfant, égorgé devant leur enfant. C'est vraiment jeté en pâture des fonctionnaires qui font un travail extrêmement difficile. Et autant j'ai dit aux policiers que je ne souhaitais pas qu'ils soient cagoulés dans les manifestations parce que la police de la République, elle est à visage découvert, sauf exception, notamment antiterroriste, par exemple, bien sûr. Autant nous leur devons protection lorsqu'ils sont jetés en opprobre dans les réseaux sociaux, parce que vous connaissez tous des policiers ou des gendarmes qui sont insultés quand ils sont au supermarché avec leur enfant ou leur femme, ou avec leur mari lorsqu'ils sont au club de sport du coin. Et nous leur devons protection. Et donc je vous remercie de mettre en place ce floutage.
Voilà, c'était un extrait des débats sur l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, où l'on pouvait entendre le ministre de l'Intérieur justifier le floutage des policiers prévu par cette loi en utilisant le drame de Magnanville et en disant, je cite, « même si on ignore si les images sur les réseaux sociaux ont fait naître ou pas cet attentat ». Alors déjà, bravo, justifier une loi aussi liberticide par une supposition aussi violente, c'est très très classe de la part d'un ministre. Alors pour ce qui est de cet article 24 qui, je le répète, interdit la diffusion d'images permettant d'identifier tout policier ou gendarme dans le cadre d'une opération, lorsque cette diffusion vise à porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, alors la notion intégrité physique ou psychique reste extrêmement floue et ouvre la porte à de nombreuses interprétations. La défenseure des droits, Claire Hédon, a notamment publié un communiqué dans lequel elle se dit, je cite, « particulièrement préoccupée par cette disposition qui ne doit pas entraver ni la liberté de la presse, ni le droit à l'information ». Elle rappelle également que l'information du public et la publication d'images relatives aux interventions de la police sont légitimes et nécessaires au fonctionnement de la démocratie. À ce propos, je vous propose d'écouter Ariel Imi, avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, extrait d'une vidéo de David Duspren, disponible sur YouTube.
Bonjour, je m'appelle Ariel Imi, je suis membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et je suis contre l'interdiction de diffusion des images. S'il faut protéger les policiers, eh bien le Code pénal et la loi de 1881 le font déjà. Vous avez trois délits qui sont réprimés jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, celui de cyberharcèlement, celui de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, et puis aussi celui des menaces de mort. Nous avons déjà tout l'arsenal juridique pour protéger les policiers. Ensuite, parce que ce texte porte une extrêmement grave atteinte disproportionnée aux droits des journalistes et à la liberté d'informer. N'importe quel journaliste qui diffusera en direct pourra être interpellé par un policier qui pense qu'on veut porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Il pourra être mis en garde à vue, menotté, et éventuellement renvoyé devant un tribunal où il pourra être condamné parce que la notion d'intégrité psychique est particulièrement large et floue. Enfin, parce que le comportement journalistique va bien évidemment être modifié. Les journalistes, les rédactions de presse vont s'auto-censurer compte tenu du risque judiciaire. N'oublions pas bien évidemment les victimes de violences policières. Avec ce texte, il est possible que des personnes comme Geneviève Le Guay, Cédric Jouvia et leurs familles ne pourront pas obtenir justice puisqu'il ne sera plus possible de diffuser des images sans risquer finalement d'aller devant un tribunal.
Alors comme le disait à l'instant l'avocat Ariel Imi dans cet extrait, filmer la police et notamment les exactions des forces de l'ordre est un moyen de réclamer justice pour les victimes de violences policières et souvent de faire éclater la vérité. Pour terminer, je vous propose d'écouter les propos de Geneviève Le Guay, cette militante d'attaque de 73 ans qui avait été grièvement blessée à Nice lors d'un rassemblement des Gilets jaunes, et ceux de Sophia, fille de Cédric Chouvian, décédée à 42 ans lors de son arrestation à Paris par la police le 3 janvier dernier.
Bonjour. Le 23 mars 2019 à Nice, j'ai été victime de violences policières. Avec la loi Sécurité globale, que le gouvernement veut faire passer interdisant la diffusion des images de policiers, nous n'aurions pas pu obtenir la vérité sur ce qui m'est arrivé. Si mes avocats, ma famille, des journalistes ou moi-même diffusons ces vidéos, nous pourrions être jugés devant un tribunal correctionnel et risquer 5 ans d'emprisonnement. Protégeons nos libertés ainsi que celles de la presse. Merci.
Aujourd'hui, avec l'aide de vidéos, nous avons pu contredire les mensonges des policiers. Sur ces images, mon père est victime de violences policières. Le droit de diffusion nous a permis de révéler au grand jour la vérité. C'est pour cela que ces images, ces appels à témoins, ces vidéos sont notre seul moyen de défense. Ce sont la voix de nos défunts. Ne la réduisons pas au silence. Et n'étouffons pas encore la vérité.
On écoutait à l'instant Geneviève Le Guay et Sophia Chouvion. C'est extrait d'une vidéo de David Dufresne qui est disponible du coup sur sa chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui voudraient dire non à la loi dite de la sécurité globale, je vous invite à signer la pétition qui circule en ce moment sur chance.org. On vous mettra bien sûr le lien avec le podcast de l'émission.
Eh bien, merci Paul pour cette chronique pleine de bonnes nouvelles. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Histoire de se remonter un peu le moral maintenant, je vous propose une perle de la nouvelle sélection de la semaine de Monsieur Guézou. Un peu de pop avec le chanteur parisien Agapé et son morceau Peur du vide. C'est parti pour quelques minutes de vertige sur les ondes de Syllab.
Dans la fête, on se tasse, oui, et ça me donne chaud. Mon regard attiré par le score ne se risquerait pas à poser un veto. Dans la scène, balaye les records, je n'ai pas le courage de quitter le plateau. Demain pourtant, ce jeu sera mort, enterré dans le sable comme le sont les dinos. Et le temps passera sur nos corps, mais je subis la vitesse. Souvent soumis à l'ivresse. Mais j'ai tout le temps peur du vide alors. Je croque tout sur mon chemin et je passe ma vie dehors. L'infini sera toujours loin, mais j'ai peur du vide alors. Je croque tout sur mon chemin et je passe ma vie dehors. L'infini sera toujours loin. Dans la fête, on se tasse pour une part de gâteau. De suite concerne, je crois que j'ai chaud. Quand le bout de mes doigts se transforme en mégot, ça ne brûle pas vraiment mon ego. Je n'ai pas le courage de quitter le plateau. Demain pourtant, là, je serai mort, enterré dans le sable comme le sont les dinos. Mais le temps passera sur nos corps. Mais j'ai tout le temps peur du vide alors. Je croque tout sur mon chemin et je passe ma vie dehors. L'infini sera toujours loin, mais je perds du vide alors. Je croque tout sur mon chemin et je passe ma vie dehors. L'infini sera toujours loin.
c'est tel chanteur pop agape avec son morceau Peur du vide sur le 4 en 8.4.
Je dois vous laisser.
Allez, s'il vous plaît, docteur.
Il y a eu quoi que ce soit d'autre, genre un truc dont on aurait pu parler entre nous, peut-être un endroit où on voulait aller?
Syllabe.
La radio sauvage.
Fini les petits graffitis au crayon gris sur les tables de l'amphi. Le distanciel est de retour dans nos belles universités. Soraya, tu es donc allée voir du côté des étudiants confinés. Et grâce à tes talents d'informaticienne, tu t'es entretenue à distance avec Morgane, étudiante en troisième année d'histoire à Rennes 2.
Ouais, c'est un peu ça, Paul. Mais c'est ça, les bruits circulaient et en effet, les craintes se sont avérées fondées. Notre cher président, dans son discours du mercredi 28 octobre, a confirmé ce qui se murmurait depuis plusieurs jours. Nouveau confinement, je ne vous apprends rien, et ce jusqu'au 1er décembre prochain à minima. Et cette nouvelle a par la suite été précisée par le Premier ministre jeudi 29 octobre. Plusieurs adaptations et de nouvelles mesures sont entrées en vigueur. Et en ce qui me concerne, moi et ma rubrique, une nouvelle qui dépanne est moindre, fermeture des campus universitaires. Alors les étudiants s'en doutaient, l'administration et les services universitaires aussi, puisque ceux-ci avaient pris certains devants afin d'anticiper ce chamboulement. À noter que la rentrée de septembre avait déjà une saveur particulière, en tout cas à Rennes 2, étant donné la mise en place d'un système moitié présentiel, moitié distanciel, le tout une semaine sur deux et des effectifs en demi-jauge. La dynamique est mine de rien tout autre avec cette fois-ci des cours 100% en ligne. Et pour avoir une idée de ce que cela représente, je me suis dit qu'il n'y aurait rien de tel que de demander l'avis d'une étudiante directement concernée par la situation. Je me suis donc entretenue avec Morgane, étudiante confinée en région parisienne. Aujourd'hui, je suis en ligne à distance avec Morgane. Morgane qui est étudiante en troisième année d'histoire à l'université Rennes 2. La semaine dernière, semaine des vacances universitaires de la Toussaint, tu es rentrée chez tes parents en région parisienne et tu avais pris un petit peu les devants en emmenant avec toi beaucoup d'affaires personnelles, y compris tes affaires scolaires, pour pouvoir suivre les cours à distance. Parce que oui, ce nouveau confinement, il se traduit par la fermeture des campus universitaires et donc des cours dispensés uniquement en ligne pour les étudiants et étudiantes. Bonjour Morgane.
Bonjour Soraya.
Les cours ont repris donc depuis lundi. Comment ça se passe globalement après plusieurs jours en ligne ? Pas trop dur de suivre. Est-ce que tu arrives à garder le rythme déjà ?
C'est un peu compliqué parce que on reçoit les infos au compte-gouttes sur les moyens de faire cours. Il y a certains profs qui en fait ne vont pas faire de cours en ligne, certains qui vont faire sur Zoom ou via, ou certains qui refont comme on avait fait pendant l'année qui avait commencé quand on était en demi-jauge. Avec les amphithéâtres où, en fait, ils sont tout seuls et on doit accéder au portail de l'université avec leurs liens. C'est un peu compliqué et on essaye de s'en sortir parce que les infos n'arrivent pas toutes en même temps.
Cette mise en place, c'est un complexe, elle ne t'est pas inconnue puisque l'université avait déjà décidé de mettre en place à la rentrée de septembre d'alterner les semaines entre cours en présentiel avec la venue des étudiants sur le campus et des cours en distanciel en ligne. Donc tu avais déjà un petit peu expérimenté ce système plusieurs semaines avant les vacances de la Toussaint et cette nouvelle annonce de confinement. Est-ce que ça change quelque chose de passer à des cours entièrement en ligne ? Est-ce que c'est plus difficile de suivre puisque tu n'as plus aucun pied sur le campus ? Aucun lien vraiment direct avec les enseignants et tes camarades? Ou peut-être, bon, tu nous as déjà briefé là-dessus, peut-être que ça se passe bien, que cela fonctionne?
C'est un peu plus compliqué parce qu'on on se voit pas forcément avec les camarades pour parler des cours, mais on avait souvent en fait les CM en demi-jauge et un peu les TD, mais là c'est totalement les TD qui passent en distanciel aussi, donc c'est un peu plus compliqué. Les professeurs sont pas forcément habitués à tout ce qui va être via Zoom, donc ça va être un peu cafouillis et même par exemple pour nos exposés un peu compliqué. Et puis on va pas se mentir, les plateformes fonctionnent parfois très très mal.
Tu devances un petit peu ma future question. C'était ça au niveau de la connexion des supports informatiques. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est pas trop compliqué à prendre en main ? Moi, je te demande ça parce que j'ai bien vu que depuis la rentrée lundi avec tous les cours à distance, il semble que certains étudiants et certaines étudiantes aient des difficultés d'accès aux plateformes en ligne, des difficultés de connexion et parfois même qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité d'accéder aux cours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de ne pouvoir absolument rien faire, accéder à aucun support en ligne ?
Généralement, quand c'est en petit groupe, on arrive plutôt à y accéder, à ce que ça fonctionne, etc., quand on a une bonne connexion. Après, le problème, c'est par exemple pour les CM qui passent par exemple par les plateformes type VIA, quand on est beaucoup trop, ça sature. Et la dernière fois, par exemple, j'ai eu un professeur qui a dû arrêter le cours et après nous le poster sur Cursus parce que impossible de faire ça avec plus de 120 étudiants et étudiantes qui se connectent en même temps.
Étant donné justement tous ces possibles et fréquents dysfonctionnements dont tu parles, est-ce que vous vous sentez accompagné, vous les étudiants, dans ce quotidien un peu particulier du 100% en ligne? Est-ce qu'il y a des structures qui ont été mises en place, des outils d'entraide? Est-ce que tu estimes que l'université vous accompagne dans les difficultés que vous pouvez rencontrer? Ou même accompagner les enseignants aussi dans les difficultés que eux peuvent rencontrer?
J'ai l'impression qu'on est tous un peu dans un flou où l'université, on l'entend, on voit pas trop ce qu'elle fait. On sait qu'il y a des dysfonctionnements qu'elle essaie de régler justement avec les plateformes type VIA et que les professeurs sont en fait aussi embêtés que nous par la situation. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un problème qui essaye d'être réglé parce que j'ai l'impression que ça fonctionne toujours. Enfin, on est jeudi, ça a commencé depuis lundi. J'ai pas l'impression de voir réellement des améliorations et pas réellement un accompagnement pour ceux qui sont... pour les étudiants qui sont un peu en galère, par exemple, en difficulté par rapport à leur connexion Internet, contrairement au premier confinement, là, j'ai l'impression que, comme on passe totalement en distanciel, pour la fac, là, j'ai l'impression que c'est une réelle évidence que tout le monde a Internet et qu'ils accompagnent un peu moins les étudiants et étudiantes qui n'ont pas Internet ou qui sont en difficulté de connexion. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu laissé de côté quand même.
On se doute évidemment que la situation est compliquée pour tout le monde, y compris pour les structures de l'université. On espère en tout cas que la situation va s'améliorer puisqu'il vous reste quand même plusieurs semaines à faire en ligne. Cette fermeture des universités, tu l'as dit tout à l'heure, avec uniquement des cours en ligne, elle tranche quand même avec la rentrée de septembre où étaient maintenus justement en présentiel les TD, les travaux dirigés, qui consistent beaucoup plus que des cours magistraux en des exposés, des travaux encadrés par le professeur, des travaux aussi en groupe, des échanges normalement plus faciles, plus aisés et plus nombreux avec l'étudiant qui est davantage disponible que devant un amphithéâtre de 200 ou 300 étudiants. Alors comment ça se passe, ces travaux dirigés en ligne? Est-ce que vous arrivez à échanger, à interagir, à produire réellement quelque chose entre étudiants et avec le professeur qui dispense le cours? Ou alors, c'est vraiment compliqué d'établir cette relation de groupe, d'autant plus avec des difficultés de connexion?
Je ne vais pas mentir, je n'ai pas eu encore tous mes TD qui sont arrivés pour l'instant parce que c'est le vendredi. Mais j'en ai eu un, par exemple, aujourd'hui. On est en petit groupe, donc ça va, mais il y a comme un peu cette honte derrière un écran qui est difficile, où on est un peu tous, pas honteux, mais timides. Donc, on parle pas trop, il n'y a pas réellement d'échange. Le professeur, j'ai l'impression, généralement, se retrouve seul à parler et a du mal à donner, comment on appelle ça, la parole aux autres qui sont en fait trop gênés pour parler via un ordinateur. Mais après, tout le monde ne va pas faire des TD au final parce que j'ai des professeurs qui n'en font pas. Donc, au final, ça réduit en fait les cours qu'on a à les avoir sous forme papier ou PDF. Et il y en a qui ne vont pas faire de TD en ligne, mais quoi qu'il arrive, c'est un peu toujours compliqué parce qu'on ne parle pas entre nous, on n'a pas cette discussion. Et normalement, ça doit accompagner le CM, mais là, ça ne le fait pas trop parce que vraiment, là, ça va être juste pour les exposer et c'est tout.
Alors, comment ça se passe pour ces cours où les enseignants ont décidé de ne pas dispenser de TD, de travaux dirigés? Vous ne vous contentez que d'un cours magistral, ou alors on vous envoie plutôt des supports papier?
Pour ceux qui nous ont dispensé, on va dire, de TD via une plateforme comme via Zoom, c'est plutôt mettez vos exposés envoyez-moi vos exposés par mail, etc. Et puis je vous les enverrai après au reste de la classe sur Cursus. Ils font pas grand chose pour ça.
Bon, et alors concernant les évaluations et les notations, est-ce que vous avez peut-être déjà eu des informations sur comment cela va-t-il se passer? Je sais que les examens finaux du semestre ont généralement lieu fin décembre, début janvier plutôt, mais il existe quand même des évaluations demi-semestre sous forme d'exposés ou de dossiers à rendre. Comment ça se passe? Est-ce que vous savez si des rendus à l'oral seront possibles ou alors si tout sera rendu sous forme d'écrit? Peut-être, je suppose que c'est encore très flou pour vous et même flou pour les professeurs. Est-ce qu'on vous en a dit déjà un petit peu là-dessus?
J'avoue que je crois que avec ce reconfinement, la question s'est même pas posée pour les professeurs, l'administration, etc. Parce que on n'a eu absolument aucune nouvelle de par exemple, bah, des partiels qui, on espère en tout cas, auront lieu en présentiel si on se fait déconfiner d'ici là. Mais sinon, pour ce qui va être rendu de dossier, etc., bah, je sais que certains professeurs nous l'ont dit que ce serait par cursus. Mais ça, déjà, ça devait l'être avant qu'on soit confiné. Mais sinon, je crois qu'on voit un peu au jour le jour de ce qui va se passer et comment on va faire avec ce confinement.
Oui, on sent bien que c'est une adaptation quotidienne aux conditions qui vous sont malheureusement imposées. Bon, et pour conclure, certes, il vous reste encore quelques semaines comme cela à tenir en distanciel. Mais toi, de ton point de vue d'étudiante qui expérimente et qui parfois subit tous ces dispositifs encore tâtonnants, tu espères un retour prochain sur les campus? Est-ce que c'est faisable, selon toi, dans le respect des mesures sanitaires, des gestes barrières? Ou alors non, c'est vraiment intenable et peu prudent de se faire se croiser des milliers d'étudiants tous les jours sur un même campus, et donc il fallait passer à ces cours entièrement en ligne. Qu'est-ce que tu estimes être la meilleure solution pour que chacun et chacune puisse poursuivre et suivre le plus sereinement possible son cursus? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Personnellement, moi, j'aimerais bien retourner sur le campus de Rennes 2 parce que bah, c'est aussi la vie étudiante. J'aimerais bien qu'elle reprenne toutes les activités autres que les cours. C'est toujours sympathique d'être sur la fac. Mais en soi, je trouvais qu'à Rennes 2, on respectait très bien les mesures, le protocole sanitaire mis en place, mais en soi, on sait très bien que c'est les écoles, les universités, etc., qui étaient les plus gros clusters en France. Et bien sûr que se faire croiser des centaines et des milliers d'étudiants par jour, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Personnellement, j'espérais un retour à la normale d'ici janvier, au moins, pour que bah, on se dise que ce soit pas qu'une année universitaire qui se ferait en ligne. Mais oui, j'aimerais bien retourner en tout cas sur le campus, et je l'espère au moins pour janvier.
Eh ben, on l'espère en tout cas pour vous aussi, et puis un prochain peut-être retour à la normale. Merci Morgane pour ton témoignage d'étudiante confinée qui suit à distance tous ses cours tant bien que mal. On te souhaite et on vous souhaite à tous les étudiants et étudiantes beaucoup de courage pour le reste du mois de novembre qui ne fait que commencer. Et on ne peut espérer pour vous et pour tout le monde d'ailleurs qu'un retour à la normale le plus vite possible. Merci.
Merci.
Merci Soraya et Morgane pour cette petite mise au point sur les cours en distanciel. Visiblement, c'est pas encore ça. Rennes 2 à la pointe des boomers.
Dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Tout de suite, on se fait plaisir aux esgourdes avec le morceau Losers des Belges du groupe Balthazar. Andiamo la musica.
Paolo Conte can, right?
écoutait à l'instant Losers du groupe Balthazar.
Ah, je reviens. Ah, je reviens. Ah, au nom de Dieu, quelle merveille.
Aïe aïe aïe, c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission un peu particulière, vous l'aurez remarqué. Et on l'espère sans trop de quoi que vous nous pardonnerez, on fera mieux la prochaine fois.
On se retrouve lundi à nouveau depuis nos canapés, mais pour toujours plus de surprises avec les zouaves de l'inattendu. Lucha siempre, tchuss.